la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. La Kurte Résidence est une architecture de transition réalisée par l'architecte liégeois Olivier Fourneau. L'immeuble est situé en front de Meuse à Liège. Il s'élève entre un hôtel de maître néoclassique et une église art déco de 1930. Son enveloppe est toute en briques. Elle concourt pour le Brick Award, un prix international qui sera remis à Vienne en juin prochain. C'est signé Pascal Goffo. Sur les sentiers de l'architecture à Ottigny, autour d'une table de jardin en bois de récupération, bien sûr, rencontre avec le collectif de la Verte Voie. Pionnier dans l'architecture écologique en Belgique, les membres de la Verte Voie explorent maintenant depuis plus de 20 ans de nouvelles manières d'habiter, de construire, de vivre tout simplement. Et pour plonger dans leur démarche, Simon Deby, Catherine Massard, architecte et porte-parole du noyau dur de la Verte Voie, nous plonge dans le projet Coup, un projet d'habitat intergénérationnel où l'on repense la vieillesse.
Nous allons à présent découvrir la Kurte Résidence, une réalisation de OFA, Olivier Fourneau Architecture. Ce bureau liégeois vient de recevoir le BICMAT, qui est un prix européen qui décerne des prix nationaux, pour cette Kurte Résidence, qui est également sélectionnée pour le Brick Award, un prix international qui met à l'honneur la brique et les matériaux céramiques de construction. Et effectivement, la Kurte Résidence a une enveloppe tout en briques. Elle est nommée dans la catégorie maison individuelle. Le Brick Award est organisé par un producteur de matériaux pour la construction, Wienerberger, mais un jury indépendant décerne ce prix. Il sera remis à Vienne le 11 juin prochain. Olivier Fourneau, où se trouve-t-on ?
À Liège. Tout à fait, on se trouve dans le quartier du Jardin Botanique, un quartier qui se situe entre la gare et le centre-ville de Liège.
Rue Beckmann, alors c'est là où vous vivez, où vous avez vos bureaux ?
Les deux. Donc ça fait 25 ans que j'habite et que je travaille ici.
Vous nous invitez à entrer ?
Ouais, avec plaisir, allons-y.
Olivier Fourneau est né à Verviers en 1971, formé à l'Institut Saint-Luc, qui fait à présent partie de l'Université de Liège, qui a créé sa propre faculté d'architecture, où Olivier Fourneau enseigne aujourd'hui le projet d'architecture. Un séjour d'études aux États-Unis et des études d'architecture et une année Erasmus en Italie ont complété sa formation.
Bonjour.
Bonjour. Là, c'est OFA.
Oui, c'est ça. Notre atelier d'architecture qui existe depuis 25 ans.
6 personnes travaillent avec vous ?
Oui, c'est ça. On est une équipe de 7.
Les options choisies par ces architectes sont l'urbanisme, la restauration. C'est une clé pour comprendre que vous vous inscrivez dans le tissu urbain, que c'est très important pour vous.
Oui.
Vous rénovez aussi des immeubles anciens ?
Oui, beaucoup. Historiquement, on a probablement rénové plus d'immeubles que l'on en a construit. Et je pense que la tendance actuelle va encore en s'accélérant, hein, puisque en fait, le tissu est globalement bâti. En plus, actuellement, on cherche surtout à ne plus démolir les immeubles. On met plutôt à chaque fois à essayer d'utiliser leurs ressources pour ce qu'ils ont à offrir et surtout à identifier leur potentiel. Oui.
Durabilité oblige.
Voilà.
Votre devise, the best plan is no plan. Alors, c'est surprenant, même inquiétant.
C'est la meilleure manière d'être à l'écoute, en tout cas, je pense. D'être ouvert à ce qui est là, le déjà là. Et finalement, en étant à l'écoute, ben, les réponses se formulent plus aisément et je pense beaucoup plus justement dans un contexte où tout est déjà là. Hein, on travaille énormément dans le centre de Liège, qui est une ville historique, déjà principalement bâtie, pour laquelle parfois on a eu tendance à ignorer en fait la qualité de ce qui était déjà là, notamment pendant toute la période 60, 70, 80. Et je dirais qu'ici, bon, on attache beaucoup d'importance en fait à développer des projets qui s'inscrivent. Comme le disait un enseignant d'architecture, Aloïs Beguin, qui disait en fait une architecture qui est faite d'écoute, mais qui est une architecture du dialogue.
Donc, prendre toujours en compte la situation qui se présente. Donc, chaque projet est singulier. Est-ce qu'on reconnaît malgré tout une intervention d'Olivier Fourneau ? C'est quoi la griffe ?
Pour moi, ce n'est pas une griffe, c'est plutôt une approche. Dans notre tissu liégeois, elle est peut-être particulière en ce sens qu'il n'y a peut-être pas encore énormément de bureaux qui travaillent justement sur le tissu existant.
Mais c'est le rapport de l'homme à l'espace, un de vos fondamentaux.
Oui, tout à fait. Et le fait surtout que travaillant en ville, expérimentant au quotidien, c'est le fait de s'assurer que ce qui va être là demain soit dimensionné et puisse tenir aussi la distance du temps, puisse servir en fait aux gens et à la ville. Est-ce que notre décor de vie soit un peu à la hauteur de ce que la ville est déjà?
On va quitter votre bureau, on va se mettre en route vers la Kurt Résidence, parce que cette Kurt Résidence est nommée pour un prix, le Brick Award. On prend le tram ?
Ah ben bien sûr.
La Kurt Résidence fait référence à sa situation. L'immeuble est situé quai Godefroy Kurt à Liège, à deux pas du pont Maguin et de la rue Adolphe Maréchal, qui est perpendiculaire au quai.
Vous voyez en fait ici le quai Godefroy Kurt est le dernier quai qui termine, je dirais, le centre de Liège et constitue la pointe de l'île d'Outremeuse. La dernière partie du quai a été construite à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont construit donc le pont Maguin et ce pont nécessitait en fait évidemment la réalisation d'une voirie surélevée pour rejoindre le pont. Ce qui a donné lieu en fait à la vente de parcelles à front de Meuse. Ce qui a donné en fait cette écriture de maison très, très bourgeoise, hein, à vrai dire, des grands immeubles de maître de style néoclassique. Bien que certains ont été construits au tout début du XXe siècle, comme l'immeuble des propriétaires du projet, qui est un immeuble que l'on voit, qui est d'un style un peu déjà avec des toitures à la mansarde. Et il faut savoir que la structure de ce bâtiment-là est réalisée en béton. Les planchers du bâtiment se trouvant à gauche de notre projet et la toiture sont réalisés entièrement en béton. Donc on est à quelque chose de complètement hybride en fait, hein. On est au basculement d'une époque.
Alors je vais peut-être décrire, quand on est sur le quai, face au bâtiment, il y a à gauche un immeuble du 19e siècle, immeuble bourgeois de type néoclassique, mélange de pierre et de briques avec de hautes fenêtres, et des chiens assis à l'étage.
Oui.
Et puis, il y a la Kurt Résidence,
oui.
Votre immeuble, et à droite, une église de style art déco.
Voilà, et plus précisément de style hollandais.
École d'Amsterdam.
Voilà, et donc dessinée avec une grande délicatesse et un grand travail justement de la brique. Hein. Donc on est dans une sorte de dentelle de briques. De teinte orange clair.
Effectivement, cette église est toute en briques. Elle occupe un angle arrondi que forme le quai Kurt, Godefroy Kurt, et la rue Adolphe Maréchal, cette rue Maréchal qui surplombe la Meuse. Donc l'accès au quai se fait par une rampe.
Voilà. Et alors, du fait de cette rampe, les jardins qui se trouvent à l'arrière, évidemment, de la rue et des immeubles sont des jardins qui se trouvent un niveau plus bas que le niveau de la rue.
Il y a un étage de plus, mais en dessous.
Exactement.
Il s'agissait en fait de construire un immeuble de transition entre ces deux architectures, entre ce bâtiment, on n'a peut-être pas cité le nom, d'Edmond Jamard.
Exactement.
Et l'église.
Exactement. C'était la grande difficulté de ce projet, c'est de travailler sur la transition sans pour autant travailler dans la soumission par rapport aux écritures qui étaient présentes sur le site.
Et vous étiez à la recherche d'une matérialité et finalement c'est la brique qui s'est imposée.
Oui, dans ce contexte-ci, elle s'imposait. On a clairement travaillé avec une brique qui reprend les teintes des habitations de logement qui se trouvent à gauche de l'immeuble. Mais par contre, pour le travail de la texture, on a travaillé en évoquant ce qu'on retrouve notamment dans l'écriture art déco de l'église. Donc un travail très ciselé de la brique, avec beaucoup de détails. Et alors ce qu'on a fait aussi au niveau des gabarits, c'est qu'on a réinterprété, je dirais, le vocabulaire local. Donc les bow windows, qui en l'occurrence deviennent des balcons. Les notions de corniche et d'alignement. Le tout avec, malgré tout, une grande liberté formelle.
Je vais me permettre de décrire votre intervention parce que l'immeuble a une architecture composée de deux parallélépipèdes rectangles qui se superposent. Dites-moi si je me trompe. Hein. Le premier correspond au rez-de-chaussée au premier étage avec un bow window en briques qui se détache au premier étage et qui fait office donc de petite terrasse. Et puis le deuxième parallélépipède correspond au deuxième, troisième étage. Il est en retrait et le recul permet en fait de disposer d'une terrasse qui est plus large que la base de ce volume puisqu'elle déborde sur la toiture du premier étage. Donc ces reculs permettent aussi d'ouvrir le bâtiment vers l'extérieur.
D'ouvrir vers la vue sur Meuse, mais en proposant également des terrasses couvertes. Et alors le volume suspendu, il est pourquoi ? Ben pour éviter en fait d'entrer en conflit avec la toiture à la mansarde du voisin. Donc on a une indépendance, je dirais, du gabarit.
Et vous avez respecté la hauteur des fenêtres de l'immeuble voisin pour percer les ouvertures, que ce soit donc les deux portes du rez-de-chaussée, le balcon du premier étage, les fenêtres des deuxième, troisième. Enfin, il y a une horizontalité.
Il y a une horizontalité dans une logique de réversibilité, voire de relation, de mise en relation avec l'immeuble voisin, qui est celui des propriétaires. On a travaillé avec les mêmes niveaux. Donc vous avez un premier étage qui s'appelle le bel étage dans le langage néoclassique, mais qui propose des hauteurs sous plafond de l'ordre similaire à ce qu'on a à côté, de l'ordre d'un 3,50 m sous plafond, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si on souhaite un jour créer des relations entre les deux immeubles, ben on peut le faire sans difficulté.
Olivier Fourneau, la Kurt Résidence, et vous parliez il y a un instant de l'appareillage donc des briques qui se différencient d'un bâtiment à l'autre dans la courte résidence et dans cette église.
Oui, donc on n'est pas sur une réplique où on travaille des similitudes ou des évocations. Par exemple, le travail de la brique à 45 degrés, pour les Liégeois qui sont amateurs d'architecture, ils retrouvent ce qu'on peut trouver dans une autre église art déco qui se trouve à 800 mètres d'ici et qui, elle, présente un parement qui est fait notamment de briques placées à 45 degrés. Et alors, ce qu'on a trouvé intéressant, c'était aussi d'entrer en dialogue avec l'église. La petite évocation du lien avec l'église, c'est cette baie avec un arc en plein cintre au rez-de-chaussée, des surfaces de bureaux.
Portes et fenêtres.
Voilà.
Quelles ont été vos références architecturales ?
Je dirais qu'il y a un projet clé, à mon avis. La maison rouge d'un architecte anglais de Tony Fretton à Chelsea, à Londres, qui à un moment donné réinterprète tous les codes de l'architecture néoclassique, mais avec une énorme liberté formelle, et qui s'épanouit très aisément dans ce contexte-là.
Et en fait,
qui êtes-vous ?
Ah, moi, je suis Charlotte Quevedo, propriétaire de ce magnifique bâtiment.
Ce bâtiment qui comporte des logements et un bureau.
Oui, tout à fait. Donc, il y a un ré et un moins un qui hébergent un bureau d'architecte. Et puis, deux appartements d'espace tout à fait agréable à vivre pour des logements qui sont loués actuellement en Airbnb.
C'est agréable de vivre ici ?
C'est très, très agréable parce qu'on est vraiment en face de l'eau. On a vraiment une sorte d'ouverture sur la ville tout en étant dans une espèce de nature apprivoisée. Et puis le fait que les deux appartements soient traversants, en tout cas le duplex avec une pièce de vie traversante, permet de vivre dans une clarté qui fait du bien dans une ville. On n'a pas du tout un sentiment d'étouffement, vraiment une sensation d'ouverture. Et ça, c'est assez rare.
On pourrait voir ?
Oui, évidemment. Suivez-moi. Je pense qu'on commence peut-être par l'appartement du dessus, qui est le duplex, alors, hein, l'appartement sur deux étages. On monte quelques volets d'escalier, et là, on arrive directement sur la pièce de vie qui s'ouvre sur un balcon avec deux châssis qu'on peut ouvrir entièrement. Pour dévoiler alors cette vue qui est complètement imprenable sur la ville.
Ah oui, c'est remarquable, effectivement. Donc on est à l'intérieur du bow window.
Oui, exactement. Et donc juste au-dessus, on a une terrasse qui, vous le voyez, elle est confortable en termes d'espace, mais surtout elle est ouverte sur la ville et elle donne de l'air.
Oui, une belle lumière, hein, vraiment. Et vers l'arrière, là ?
Je suis retournée, alors là, on a le soleil traversant... dans le salon, et c'est vraiment la pièce de vie qui communique entre le salon et la cuisine.
Ce logement-ci fait 100 mètres carrés. C'est le duplex, c'est un 3 chambres.
Alors chaque chambre a sa petite salle de douche, une chambre avec vue Meuse et une chambre avec vue sur les toits de Liège.
Et vue sur grue, c'est pas un nouveau chantier d'Olivier Fourneau ?
Non, pas partout.
Pas encore.
Et alors, l'étage en dessous, on a un appartement, une chambre, mais qui dispose de très belle hauteur sous plafond. Et qui donne également donc la vue sur la Meuse.
Merci pour votre accueil.
Avec grand plaisir. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez.
Bah, je louerai la chambre côté Meuse. Bonjour, vous êtes architecte ?
Oui, tout à fait, Pierre de Sex.
Et vous occupez l'espace bureau dans cette courte résidence ?
C'est ça, donc j'occupe le rez-de-chaussée à niveau du quai et j'occupe également le moins un qui est un niveau de jardin puisque les deux niveaux sont différents. Donc c'est un espace qui est dédié à l'architecture mais également à la photographie puisque j'ai les deux casquettes, architecte et photographe. Et donc toute surface blanche est potentiellement une surface d'affichage.
Et la surface au sol ?
Alors, il est plus ou moins de 80 mètres carrés par niveau. Donc, on a 160 mètres carrés en tout. Avec deux surfaces de sol différentes, donc au rez-de-chaussée, on retrouve un granito. Et au moins un, on retrouve un parquet.
Et donc, le moins un donne sur le jardin.
C'est ça. Donc, au jardin, on a la chance d'avoir un petit espace extérieur, bien orienté puisqu'il est plein est.
Et ici, c'est votre bureau ? C'est votre table d'architecte ?
Le rez-de-chaussée est un espace de réunion. C'est ici qu'on reçoit les clients. Mais qui est également un lieu de travail. Voilà, quand j'ai envie d'avoir le contact visuel avec la rue, avec le quai qui est très animé, je m'installe au rez-de-chaussée. Par contre, quand j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de calme, un peu plus d'intimité, alors on passe au moins un. On a la chance aujourd'hui d'avoir un beau petit rayon de soleil. Tout l'espace est illuminé de lumière, donc c'est vraiment, vraiment très, très agréable.
Il y a une circulation de la lumière qui est assez incroyable, parce que de l'extérieur, on a l'impression qu'on est dans un cocon de briques fermé, clos, et on a cette impression d'extrême ouverture à l'intérieur, que ce soit à l'étage, dans les appartements, ou ici, même dans votre bureau.
Oui, exactement. Donc c'est dû finalement à ce phénomène de déclivité hein, du quai Godefroy-Curt qui fait qu'on est en moins un au niveau du jardin et qui justement, une fois qu'on entre, nous permet de découvrir cet espace beaucoup plus généreux que ce qu'on pense et donc beaucoup plus ensoleillé.
Pierrick de Stex, le bureau s'appelle ?
Ça s'appelle Analogue Architecture plus Studio.
On peut rappeler que vous êtes le photographe de ce bel ouvrage paru chez Prisme et consacré au modernisme.
Oui, c'est ça. Donc, au modernisme, plus spécifiquement au brutalisme, donc un courant architectural né dans les années 50 et qui est spécifiquement des bâtiments construits en béton.
Et on voit vos photos sur les murs de votre bureau, ici même, à la Curte Résidence.
Oui, c'est ça. Donc, vous voyez que tout est fait à l'argentique, argentique noir et blanc, d'où le nom du bureau qui s'appelle Analogue, pour analogique.
Merci.
Merci.
La Curte Résidence à Liège concourt pour le Brick Award qui sera donc décerné à Vienne en juin prochain. Ce projet est sélectionné également pour une exposition à Barcelone qui se tiendra en juin et en juillet prochain, la Cities Connection Project. Merci Olivier Fourneau.
Merci.
Façon de voir est soutenue par la Direction des arts plastiques contemporains et par la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation Pascal Goffaut.
Oui, c'est juste à côté.
C'est juste à côté, ok. Merci.
Sur les sentiers de l'architecture à Outigny, autour d'une table de jardin en bois de récupération, façonnée par quelques vieilles gîtes vermoulues, je retourne à la rencontre du collectif de la Vertevoie, fondé en 2006.
2006, ouais. C'est un moment où en fait l'architecture écologique n'est pas encore très présente. C'est le début des ossatures bois, le chaux chanvre, il est inexistant dans le paysage. Maison en ballot de paille, la première a été construite en 2000.
Pionnier dans l'architecture écologique en Belgique, les membres de la Vertevoie explorent depuis près de 20 ans de nouvelles manières d'habiter, de construire et de vivre ensemble. Et s'investissent dans la réalisation d'habitats groupés et plus largement d'espaces collectifs qui redonnent leur lettre de noblesse au partage et au vivre ensemble.
En termes d'habitat groupé, on a fait à Bossière, à Chastres, à Malonne. Voilà. Maintenant, on a deux rénovations de bâtiments tertiaires bruxellois qui sont assez chouettes. Donc on a rénové un ancien immeuble de poste et des anciens bureaux en logement avec une contrainte de coût assez importante et c'est des projets assez réussis. Sinon, on a aussi travaillé sur une brasserie, on a travaillé sur un gîte, on a travaillé sur un magasin coopératif biologique et donc c'est une coopérative d'achat.
La Biscope à Scarbeck.
Et donc c'était un projet aussi collectif participatif qui a été important dans les jalons du faire ensemble. On travaille actuellement à la rénovation d'une salle communale. On est en train de rénover une crèche ici. On travaille donc sur l'école Nespa à Genappe. Puis il y a ce projet, le dernier habitat groupé, qui a une forme un peu différente des autres, puisque c'est un habitat groupé intergénérationnel qui se fait en rénovation d'un bâtiment existant.
Et c'est bien de ce projet transgénérationnel, le projet COU, encore ouvert à quelques futurs participants, dont nous parlons aujourd'hui avec Simon Deby et Catherine Massard, porte-parole du noyau dur de la Vertevoie.
Donc ce projet, il s'appelle le projet COU. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre aujourd'hui dans cette émission ce projet à l'honneur parmi tous les habitats groupés que vous avez pu mener déjà jusqu'à présent?
C'est un projet qui a une dimension assez sociale. C'est un projet qui est aussi issu d'un lieu et d'un site et c'est un projet de rénovation. Donc ça met ensemble du collectif, de l'existant et aussi une question sociale intéressante de comment mieux vieillir et comment est-ce que l'habitat et l'habitat collectif peut avoir un rôle dans cet objectif-là de mieux vieillir. Alors c'est aussi un projet qui est situé en plein centre de Cours-Saint-Étienne et donc ça fait tout à fait sens de densifier ce lieu-là et de venir mettre des personnes vieillissantes de manière très connectée avec les transports en commun, avec un petit centre, etc. Et puis c'est l'occasion de préserver de l'existant et de le compléter avec des matériaux écologiques et d'augmenter la performance énergétique du bâtiment, etc., de ce qu'on fait d'habitude, entre guillemets. Le projet, il est issu d'un groupe de réflexion qui s'appelle Adadil, encadré par Habitat et Participation, qui est une ASBL. Et il y a une série de groupes en fait, qui se sont créés à partir de ça pour essayer de concrétiser cette réflexion dans des projets réels. Et puis un de ces groupes a trouvé le site qui est la Villa Henrico à Cours-Saint-Étienne. ils ont eu un peu un coup de cœur. Ce n'est pas du tout un site anodin. Enrico, c'était le directeur de la sidérurgie des usines Enrico, donc la sidérurgie de Cours-Saint-Étienne. Donc c'est vraiment un lieu qui témoigne du passé industriel, plutôt dans sa dimension, la grande maison du directeur. C'est une maison qui est en plein centre de Cours-Saint-Étienne, attenante à une des rues principales, donc on rentre via une cour. C'est très arboré, il y a un magnifique parc-jardin à l'arrière. C'est une grande villa avec de la pierre, de l'enduit, des toitures à mansarde en ardoise. C'est assez un peu ouvragé. Ça, c'est le gros volume principal. Et puis, il y a des volumes secondaires, dont une ancienne conciergerie. C'est un bâtiment qui a eu déjà beaucoup de vie. Mm-hmm. Ça a été un home, ça a été une maison individuelle, etc. Donc, le bâtiment a été connecté, il a été divisé. Donc, il a un peu souffert de différentes interventions ces dernières décennies. Mais il a néanmoins un très beau potentiel.
Oui, parce qu'à l'intérieur, c'est un bâtiment aussi qui est haut de plafond, avec une grande porte travaillée, une cheminée en pierre, un grand escalier en bois, des vitraux, des vues en contrebas, donc ça en jette, quoi.
Oui, c'est pas en super bon état, mais ça a un certain cachet. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'était de mettre ensemble les opportunités de ce site magnifique et en même temps ses contraintes. Et puis, les objectifs du projet et ses contraintes financières, parce que c'était un projet où il n'y a pas nécessairement un budget illimité. Et donc, il fallait densifier la parcelle tout en respectant le bâtiment actuel. Et donc, on a fait un projet où on augmente du volume dans les annexes de la villa. On la laisse vraiment intouchée, ou même plus, on vient nettoyer. Donc, on supprime des extensions du passé qui ont été faites pour laisser le bâtiment principal bien visible et mis en valeur, et complété du coup par des volumes latéraux mis en retrait. Et alors on travaille en ardoise, principalement en bardage pour toutes les parties neuves. Donc l'ardoise en façade fait écho à la toiture à mansarde de la villa qui est très présente visuellement. Donc on a un certain écho au niveau des matériaux, au niveau de la géométrie ou de la disposition, mais c'est clairement un dialogue, pas du tout du mimétisme. La villa forme vraiment le pôle du logement des personnes vieillissantes. Et donc, il y a 9 petits logements de 70 mètres carrés, quelque chose comme ça, par logement, qui sont connectés à des grands espaces collectifs. Et donc, presque tout le rez-de-chaussée de la villa est dévolu à des activités collectives. Donc, il y a une cuisine, des salons. Ça donne sur une terrasse qui surplombe le jardin avec son étang. On a fait une grosse intervention en réinstallant la circulation verticale puisque l'escalier n'était pas conforme aux pompiers, donc on ne pouvait pas le maintenir et il y avait un besoin d'un ascenseur. Comme il y a des très grandes hauteurs sous plafond, on a aussi fait des étages moins hauts pour les annexes. Donc il y a tout un système de circulation verticale qui a été modifié. Et puis il y a une conciergerie qu'on a réaffectée plutôt à des logements familiaux. Donc il y a 3 appartements pour pouvoir avoir une certaine dimension intergénérationnelle au projet.
Ces logements, est-ce qu'ils pourraient remplacer un home pour des personnes qui tomberaient dans un état de dépendance? Est-ce que c'est l'idée de ce projet ou on est vraiment plutôt sur des personnes qui pensent leur vieillissement jusqu'à ce que peut-être à un moment il faille malgré tout aller dans une institution plus spécialisée?
Donc il n'y a pas de service prévu, ouais. Mais par contre, par exemple, tous les logements sont de plein pied, sans étage. Il y a un ascenseur qui dessert tous les niveaux. Et donc, je dirais que ça ne va pas remplacer complètement un placement dans une situation où il y a une très très forte dépendance, mais le moment de ce placement va être retardé.
Ils sont aussi tous prévus pour être accessibles PMR, personnes à mobilité réduite.
Oui, donc en fait, ça permet de retarder le placement et ça permet que la solidarité aussi jouent, ils sont quelque part 9 dans la même situation avec 3 familles et donc il y a des solidarités qui peuvent se trouver.
Ouais. Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que les personnes vieillissantes qui peuvent vivre en collectivité accompagnée, ils vivent mieux et plus longtemps.
Je me demande si c'est pas en Hollande où aussi il y a comme ça des personnes qui s'associent et qui recréent en fait des maisons de retraite entre eux.
Il y a le système Abbeyfield qui est un système anglais qui effectivement sont des logements partagés qui répondent un peu à ce concept à la différence près que nous on veut que ça reste intergénérationnel. Et donc, actuellement, là, il y a trois logements qui sont prévus pour des familles, mais même au sein des appartements qui sont conçus, on a conçu les espaces pour que certains d'entre eux puissent être cloisonnés différemment et pouvoir augmenter le nombre de chambres à coucher et passer d'une chambre à coucher à deux, voire trois chambres à coucher. La construction d'un logement au sein d'un habitat groupé a l'avantage qu'on peut construire plus petit avec plus. On peut limiter le nombre de chambres strictement aux besoins. On peut avoir un living qui ne permet pas spécialement de pouvoir faire une grande tablée pour accueillir 20 personnes parce que souvent, il y a un espace commun qui est à disposition des logements. Parce que souvent, comme c'est le cas à Cours-Saint-Étienne d'ailleurs, il y a une chambre d'amis avec une salle de bain qui est commune, parce que souvent on a une buanderie qui est partagée pour deux voire plus de logements, parce que on a un parking vélo qui permet de pouvoir faire mettre une trentaine de vélos et pourquoi pas un petit atelier commun pour pouvoir les réparer. Et finalement, c'est sur les espaces communs que on a la possibilité de pouvoir avoir et un grand atelier vélo et une buanderie qui est confortable, et un grand jardin, et une tondeuse qu'on peut partager, et éventuellement deux voitures qu'on peut partager également. Mais au niveau du prix de la construction, en fait, ça avoisinera au même coût que si maintenant on se construisait un logement individuel.
Alors, dernière question, un peu plus intime pour se quitter. Simon, Catherine, un espace, que ce soit une maison d'enfance, une cabane, un paysage, que sais-je, un lieu qui vous ressource, qui fait partie quelque part de vos fondations intérieures, qui incarne peut-être aussi pour vous l'idée du beau en architecture, et en tout cas un espace qui vous inspire. Quel serait-il ?
Je pense que c'est le cadre dans lequel j'habite, tout simplement. J'habite dans un habitat groupé. Autour de trois autres familles, avec des enfants un peu de tous les âges, avec un chouette cadre social et naturel.
Ma première réponse, celle qui venait naturellement, c'est la tente, en fait. Aussi basique que ce soit, c'est la plus faible épaisseur entre moi et le monde, et où on est directement en contact avec la pluie, les orages, etc. Maintenant, un cloître, un jardin, quelque chose en lien avec l'extérieur, mais avec du passé, je trouve ça intéressant d'avoir quand même du temps long dans l'architecture, des traces, de savoir que tout ça va bien au-delà de nous. Voilà.
Pour en savoir plus sur le collectif La Verte Voie, rendez-vous sur leur site lavertevoie.be. Avec les voix de Catherine Massard et Simon Deby. Façon de voir est soutenue par la cellule architecture et la direction des arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation Fanny Lacrosse. Thank you.
Bonjour, je suis Stéphane Damsin, un des architectes du bureau Ouest. Alors on est à Beaux-Arts, un palais des Beaux-Arts, et on est dans le parcours BN, qui était historiquement dans ce bâtiment de Hortade, pensé pour la photographie. Et on est donc à l'entrée de l'exposition, qui est une sorte de rotonde, dans laquelle on a réalisé un grand dessin pour cette exposition, une sorte d'œuvre collective qu'on a fait au bureau avec toute l'équipe, parce qu'on est une dizaine d'architectes au bureau, qui était d'abord un travail de dessin à la main, de grands calques format A1, et qui ont été superposés, scannés, et puis assemblé dans ce grand dessin ici.
Ce qu'on a comme impression directement, c'est que la ville est foisonnante et que la ville est aussi source d'inspiration. Je pense que c'est vraiment ça l'idée de votre travail à Ouest Architecture.
Exactement. Donc l'expo ici s'appelle Urban Legend et on voit effectivement ce grand dessin ici, une sorte de bout de ville à la fois imaginaire et très réel, parce qu'en fait tous les bâtiments qu'on voit là empruntent énormément à la réalité, certains empruntent à la fiction. On va voir, il y a la maison de mon oncle dans Jacques Tati, il y a certaines inspirations qui sont dans ce dessin, et en fait ça parle aussi de ce rapport entre la grande échelle de la ville tout autour et la petite échelle de l'architecture, parce que pour nous l'architecture, la fascination qu'on a vient de cette fascination pour la ville qui nous est venue de nos lectures de romans, de cinéma, etc. Et on essaye de voir comment, avec nos outils d'architecte, qui est une discipline assez pragmatique et dans le réel, on met des briques, on met des fenêtres, etc., comment on peut participer quand même, depuis cette petite échelle de l'architecture, à la plus grande échelle de la ville et à son pouvoir aussi, pas forcément fictionnel dans le sens de l'utopie ou de la ville imaginaire, mais plutôt de cette capacité qu'a la ville à nous émanciper, nous, humains et bâtiments.
Il y a beaucoup d'architecture, forcément, dans ces dessins. Il y a aussi beaucoup d'êtres humains. On a des enfants qui jouent dans un parc, on a des manifestants sur une place. L'humain, évidemment, est au cœur aussi du projet.
Oui, donc quand on construit en ville, en fait, il y a cette question, il y a évidemment toujours un programme. Vous avez une demande, vous avez un bâtiment, vous avez un client, etc. Et cette grande question dans la ville de comment vivre ensemble, avec les frictions et les besoins à la fois de communauté et d'intimité, qui sont des besoins complémentaires, ils peuvent paraître parfois à certains endroits antagonistes, et donc il y a quand même cette question un peu naïve mais qu'on essaie d'embarquer dans chaque projet, de comment faire en sorte que le projet répondent à ce qu'on nous demande, mais qu'en même temps, ils soient bons pour ce qui se passe autour. Et donc, dans le dessin ici, il y a une sorte de technique de dessin qui est volontairement un petit peu désobéissante aux vraies règles de la perspective ou de l'axonométrie, et où on essaie de flouter ce qui est intérieur, ce qui est extérieur. Et donc, ces personnages qu'on voit ici, et même dans le jeu des hachures, il y a volontairement une sorte d'ambiguïté entre ce qu'ils sont dans une salle et ce qu'ils sont dehors. Parce que cette sorte de foi aussi dans le fait qu'à travers l'architecture, on peut rendre la ville plus poreuse, c'est-à-dire faire en sorte que cette ville ne s'arrête pas aux façades et qu'on puisse de temps en temps, quand on se promène, pousser une porte et trouver cette surprise ou cette invitation à continuer la ville derrière les façades.
Stéphane Damson, nous voici dans la toute première salle ici à Beaux-Arts.
Oui, c'est un parcours très linéaire, 10 petites salles qui se suivent. Et donc, c'est une sorte de, ce qu'on a essayé de construire, c'est une sorte de collier où on a 5 salles thématiques qui, justement, font le rapport entre la grande ville et l'architecture. Et puis, chaque fois, un projet de l'agence. Donc, on a une salle thématique, un projet, etc., jusqu'au bout de l'exposition. On peut parler de la première pièce et de la très, très grande photo qui est la porte d'entrée dans l'exposition, qui est une photo d'Alfred Ojar. Donc, Alfred Ojar, c'est un architecte, à la base, chilien. Et au moment de la dictature, au moment où Allende est renversé, il se rend compte qu'il a besoin de rendre son travail beaucoup plus politique, puisque en fait tout le contexte est devenu politique. Et il y a cette très grande photo qui est prise un peu du point de vue du passant. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle elle est ici, c'est-à-dire qu'on essaie d'aborder la ville d'un point de vue Google Street View et pas Google Maps, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder la ville du point de vue du citoyen, du passant, et c'est pas du tout une vision technique ou master plan de la ville. Ça, c'est une chose. C'est une chose qui est à la fois très, très dans le réel, parce qu'en fait, ici, on voit une situation urbaine dans Santiago, mais ça peut être n'importe où. En fait, c'est une situation de ville avec la vie ordinaire de tout un chacun. Et il y a quand même, dans cette photo, une sorte d'ironie poétique et politique. Moi, j'aime beaucoup le mélange des deux, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit et qu'on peut embarquer dans tous les projets qui font la ville. Et donc, il pose cette grande question sur un panneau publicitaire. Est-ce où êtes félice? Êtes-vous heureux? Et donc, sur la photo, il y a d'autres panneaux publicitaires. Il faut imaginer un croisement dans une grande ville avec une pub pour de la bière, une pub pour un centre sportif, etc. Et on est dans un moment de dictature où, évidemment, la parole est muselée. Et donc, poser cette question, évidemment, c'est très, à la fois très personnel, très intime et très collectif. Voilà, c'est toutes ces raisons qui nous amènent à commencer l'expo avec ça.
Stéphane Damson, West Architecture, votre bureau a 15 ans. Vous l'avez créé avec Jan Arens. Aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui travaillent avec vous. Et vous avez sélectionné dans cette exposition 5 projets phares. Le premier que l'on découvre ici, c'est le théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve. C'est un projet qui s'est terminé assez récemment.
Oui, c'est un projet qui s'est terminé il y a un an. Enfin, il est ouvert au public en septembre 24. Et on trouvait que c'était un chouette projet pour commencer l'expo dans cette relation assez peut-être évidente ou didactique entre la grande échelle de la ville, parce que c'est une ville très particulière, c'est Louvain-la-Neuve, qui est une ville sur dalle avec une sorte de monde souterrain invisible et puis une ville plutôt postmoderne avec des petites ruelles, etc. et une brique. Et donc de voir comment ce bâtiment, qui en l'occurrence la rénovation d'un théâtre, à la fois répond au programme de rénover un théâtre et amène sa petite pierre à l'édifice, on va dire, de la conscience que cette ville est sur dalle. Donc ici, en l'occurrence, on a enfoncé la salle de théâtre dans les entrailles un peu de la ville, on a découpé la dalle de la ville, on a enfoncé le théâtre dans la ville, et depuis la rue, par une fenêtre, on peut voir que sous les pavés se passe de la culture. Voilà. Donc ça, c'était une sorte de raison pour laquelle on commence l'expo avec celui-ci.
Stéphane Damson, nous voici dans une salle qui présente un projet tout récent, un projet à Schaerbeek cette fois.
Oui, c'est le nouveau centre culturel de Schaerbeek qui va ouvrir au public en 26. Donc le bâtiment vient d'être terminé et les équipes vont se l'approprier début janvier. J'ai dit nouveau centre culturel, mais en fait c'est un travail vraiment de l'existant. Donc en fait c'était 3 bâtiments contigus qui avaient chacun leur histoire propre, qui ont été rassemblés et rachetés ensemble par la commune de Schaerbeek et qui devaient devenir le lieu du nouveau centre culturel. On a un nouveau lieu qui est fait de 3 lieux très différents qu'il faut rassembler dans un parcours qui va relier 2 rues, un peu comme une traboule lyonnaise par l'intérieur d'îlot, sur quasiment 2 niveaux, parce qu'on a une rue qui est plus basse que l'autre. Et donc, une sorte de complexité urbaine et d'intérieur d'îlot qu'on essaie d'aborder avec enthousiasme.
Ce principe de travailler sur des bâtiments existants, c'est un peu un fil rouge chez West Architecture. Je pense aux ateliers Klaus à Saint-Gilles. Je pense au théâtre Le Rideau à Ixelles. C'est une pratique courante chez vous?
Oui, c'est vrai. On aime beaucoup partir de quelque chose. En fait, on se rend compte que c'est tellement fertile de continuer cette conversation qui a été démarrée à un moment et qui continuera d'ailleurs après. Donc, on essaie de sortir de cette logique aussi de avant-après et de voir plutôt les choses comme des couches. Ce qui ne veut pas dire que le travail est chaque fois précis et soigneux. Il y a des moments, il y a des endroits, notamment dans ce projet, où certaines parties sont gardées dans un rapport à l'existant très soigneux, et d'autres où, en fait, il a fallu avoir des interventions plus drastiques. Donc, c'est un regard respectueux, mais aussi émancipé par rapport au patrimoine ou à l'existant, avec une sorte de responsabilité, mais aussi légèreté à en faire ce que la ville a besoin aujourd'hui.
Dans le fond, on entend la bande-son d'un film, d'une vidéo de Vincent Beckmann. Vincent Beckmann est plutôt photographe, mais là, en l'occurrence, vous lui avez commandé une série de films pour cette exposition.
Comme il y a ce rapport à la ville tout autour, on voulait aussi donner dans cette salle de projet la place et un regard de non-architecte sur ces bâtiments, sur ces projets et sur leur relation à la ville. Et donc on a demandé à Vincent Beckmann, qui effectivement, c'est un peu la première fois qu'il se met à l'exercice de la vidéo, et je pense qu'il y a pris beaucoup de plaisir, mais qui à la base est photographe et pas du tout photographe d'architecture. Donc c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur la ville, sur ses habitants ou ses occupants, y compris les plus précaires ou les fragilisés. Donc il a un regard très très humain, très empathique sur la ville et pas du tout idéalisé. Et donc il est venu effectivement aux différents stades des projets et des chantiers parfois s'attarder sur des choses sur lesquelles nous regardons moins. Donc c'est aussi très agréable pour nous de cette sorte de lâcher prise et pas être dans la commande de fais-moi un reportage sur le bâtiment, et donc c'est très très subjectif et on rentre dans son univers.
On arrive à mi-parcours de l'exposition. On a une très belle vue ici sur le Hall Horta, une grande baie vitrée. Juste devant cette baie vitrée, il y a quelque chose qui me semble assez important. C'est toute une série de références, de livres. Et donc, il y a clairement moyen de passer quelques heures ici à bouquiner dans l'exposition.
Le format d'exposition, que ce soit celle-ci ou une autre, est un des seuls formats dans lequel on ne paye pas pour une durée. Hein. Et donc, en fait, il faut profiter de ça aussi. On peut aussi s'installer pour un temps assez long. Peut-être je vais parler des chaises. Ça peut paraître étrange de parler des chaises, mais on a demandé dans l'expo, il y a toute une série de chaises. Ici, il y en a une dizaine pour les livres, mais il y en a dans toutes les pièces. Et ce sont des chaises de Curro Claret, qui est un designer à Barcelone, qui depuis 20 ans travaille la question du réemploi. Donc, il a dessiné une sorte de pièce pour fixer les chaises. Et tout le reste, il travaille avec des gens qui sont des gens de la rue, et les matériaux aussi sont glanés dans les poubelles. Et donc, ils fabriquent avec une sorte d'un système qui est chaque fois répété et le même, une sorte de collection de chaises qui sont chacune unique et différente. Il y a une sorte d'esthétique qui vient du processus. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'en fait, dans beaucoup de travail, c'est la même chose, et peut-être dans la salle suivante de Zineke surtout, que c'est la méthodologie et le processus qui fabriquent l'esthétique.
Ben allons justement dans la salle suivante. Ici, nous sommes face à différents documents qui présentent un projet que vous avez réalisé dans le quartier nord de Bruxelles, pas très loin du canal, le bâtiment de Zineke. C'est un projet qui est beaucoup basé sur la récupération. Vous avez notamment travaillé avec Rotor.
Oui, donc c'est un projet particulier, c'est un projet de réemploi. C'est un projet pilote européen dans la question de réemploi dans les marchés publics, parce que le réemploi, c'est plus simple et informel dans un truc privé, alors que quand on est dans un marché public, il y a toutes ces réglementations, etc., de garanties, et donc il y a eu un travail avec Rotor, il y a un travail avec un juriste très créatif pour comment fabriquer les outils pour utiliser le réemploi en marché public. Et puis surtout, avec le client lui-même. Zineke, en fait, Zineke n'avait pas d'expérience d'architecture, ils n'avaient jamais rénové un bâtiment. Mais par contre, ils avaient déjà 20 ans d'expérience de co-création, de travailler ensemble. On a énormément appris de leurs outils et on a travaillé le projet avec eux.
L'heure tourne et il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette exposition Urban Legend à Beaux-Arts à Bruxelles. On y découvre donc 5 projets et l'univers créatif du bureau d'architecture Ouest. L'exposition se visite jusqu'au 4 janvier 2026 et elle se décline aussi dans une publication. Le magazine A+ a invité le bureau Ouest à jouer le rôle de rédacteur en chef en septembre dernier pour un numéro sur la co-création. C'est ici que se referme cet épisode de Façon de voir, avec les voix d'Oriane Thomasson, Emilio Lopez Menchero, Yann Battens, Amélie Lucas-Gary, Maxence Mathieu, Martine Parr et Stéphane Damsin. Réalisation Fabrice Cada, avec le soutien de la Direction des arts plastiques contemporains et de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.